Bien, bonjour à tous. Nous avons commencé, il y a 15 jours, une revue des ressources minières du désert oriental d'Égypte, c'est-à-dire des gisements de cristaux et de gemmes, ainsi que des carrières exploitées à l'époque romaine. Parmi celles-ci, j'ai évoqué l'exploitation des carrières de Greywacke, le Beren des anciens Égyptiens, celle de granidiorite, passant brièvement sur les exploitations de Tiberiane, du Mons Claudianus et de Domitiane, sur lesquels je reviendrai plus en détail dans une prochaine séance. Il nous reste à finir notre tour d'horizon par des carrières mineures et à les replacer dans le contexte du Haut Empire. Après avoir achevé ce rapide panorama, je reviendrai sur l'exploitation des mines en exposant en détail les recherches que nous conduisons depuis 2013 sur le district minier de Samout. Alors, terminons d'abord avec les carrières. Outre la carrière de granit du Mont Sofiatès, relativement grande et vue dans le cours précédent, il existe plus au sud, au débouché du Wadi El Hammamat, dans le Wadi Essid, au niveau du Bir Hum Fawahir, un petit gisement de granit rose à grain moyen qui a été exploité au Haut Empire. De ce gisement, trois petites carrières ont été ouvertes. Vous en voyez ici sur la photo satellite 2, des affleurements de granit. Une d'entre elles présente des fûts de colonnes dégrossis avec des coins et on voit ici un exemplaire. Et ce granit a été en fait utilisé en très petite quantité, surtout au début de l'époque impériale. Et donc cette carrière n'a pas une véritable grande importance, notamment pour les monuments de Rome. Et pour les détails, je vous renvoie à l'article de Harel et Brown, paru en 1999, qui s'appelle « A Late Period Quarry for Now in the Eastern Desert ». Enfin, il y a aussi, bien entendu, les très vastes carrières de granit rose d'Assouan, sur la rive droite du Nil, exploitée depuis l'époque prédynastique et qui fut très largement utilisée au cours de la période gréco-romaine. Bien qu'elles soient en bordure du désert oriental, je n'en parlerai pas ici, car elles sont directement reliées au Nil et par le fleuve à l'ensemble de l'Empire. Elles font donc partie de l'Égypte plus que du désert elle-même, et ces productions ont donc pu être massivement et facilement exportées, ce qui n'était pas le cas pour les carrières situées dans le désert lui-même, comme nous le verrons. Une autre roche a été également très largement exploitée, c'est le porphyre. Le porphyre du Djebel Doran a été découvert sous le règne de Tibère, mais du porphyre d'Olérite avait déjà été exploité à Rod el Gamra au cours de la 30e dynastie pour extraire de petits naoï destinés à des temples. C'est une carrière qui n'est pas très loin de la route de Mersalam à Edfou. Toutefois, c'est le porphyre noir ou rouge, selon les veines, qui était particulièrement apprécié pour ses qualités ornementales, surtout le rouge pourpre qui deviendra la couleur impériale par excellence, au point que les empereurs byzantins seront qualifiés de porphyrogénètes, c'est-à-dire nés dans la pourpre, en fait nés dans la chambre du palais impérial de Constantinople qui était plaquée de porphyre rouge. Ces particularités ont fait, nous le verrons par la suite, que les carrières du Mons Porphyrites ont été exploitées du 1er siècle de notre ère jusqu'au milieu du 5e siècle. Le Mons Porphyrites est un gisement satellite de porphyre situé au Wadi Oum Towat, situé au sud-ouest, n'était toutefois pas le seul gisement de porphyre rouge. Aussi, vous avez une vue d'ensemble du Mons Porphyrites, avec le village dit du Likabet et puis la grande rampe qui descend les blocs, mais je n'insiste pas car j'y reviendrai plus tard. Finissons d'examiner les petites carrières avec une carrière de porphyre, donc, qui est située dans un autre endroit, pas très loin Toutefois, vous voyez, le Mons Porphyritas, en fait, est ici, le Mons Claudianus au niveau de Safaga, et il y a une autre petite carrière qui s'appelle la carrière du Wadi Abou Gerida, qui a livré une sorte de porphyre rouge assez particulier que les Italiens appellent porfido rosso laterizio, c'est-à-dire qui a l'aspect d'une brique, et qui est en fait une rhyolite qui a été exploitée surtout au début de l'Empire. Il se trouve qu'il y a un piton haut d'une vingtaine de mètres à côté d'une ancienne carrière d'or, et ce piton a été exploité sur environ 80 mètres de long. Mais comme la roche est fracturée, il suffisait de l'extraire à la barre à mine, mais on ne pouvait obtenir des blocs d'une longueur supérieure à 1,50 m, et donc au maximum de petites colonnes, dont une est conservée aujourd'hui dans la collection Torlonia à la Villa Albani, à Rome. Quelques-unes de ces colonnes ont été à l'époque moderne recoupées pour faire des tondi, c'est-à-dire des pavements circulaires, notamment utilisés dans l'église de San Lorenzo à Florence. Mais le fait que la roche soit fracturée est certainement la raison pour laquelle le gisement n'a pas été exploité très longtemps, ce qui explique son extrême rareté parmi les pierres ornementales utilisées à Rome. Il faut donc imaginer que lors des prospections géologiques réalisées au début de l'Empire par des spécialistes recherchant les pierres ornementales nouvelles pour les bâtiments impériaux, les prospecteurs ont repéré ce porphyre rouge utilisé pour tailler des meules, comme vous le voyez ici, par des mineurs ptolémaïques et qui avaient exploité l'or dans cette zone. Ils sont remontés à la source, ils l'ont trouvé et extrait quelques blocs, peut-être au cours d'une ou deux campagnes, puis ont considéré que le gisement ne méritait pas d'être exploité en grand, comme le sera celui du Mons Claudianus. J'émets l'hypothèse que cette phase de prospection, qui n'est pas datée sur le terrain, donc cette phase de prospection et de tentative d'exploitation, fait partie de ces explorations qui ont été réalisées sous Tibère, époque où les gisements de granit de Baroud et de porphyre du Djebel Doran furent découverts. Ce serait justement la découverte du porphyre rouge et noir de la montagne, qui s'appellera alors le Mons Porphyrites, qui aurait rendu inutile la poursuite de l'exploitation du petit gisement du Wadi Abou Gerida. Il y a aussi quelques carrières de stéatite, qui est une pierre tendre qui se taille très aisément et qui durcit au feu. Elle a été occasionnellement exploitée à l'époque romaine, surtout localement, je dois dire, pour des décorations et des sculptures. Et par exemple, les carrières de la zone de Dios, vous savez, ce fort dont j'ai parlé à plusieurs reprises, qui est situé à peu près à mi-distance entre Mersa Alam et Edfou, ont permis à l'époque romaine d'extraire des blocs, des petites plaquettes qui ont servi à décorer notamment le sanctuaire de ce fort, donc le sanctuaire de Dios, au début du IIIe siècle de notre ère. Mais ces carrières ont été surtout exploitées à grande échelle au cours du Moyen Âge pour tailler, comme vous le voyez ici, des marmites et des lampes, qui étaient ce qu'on appelle baram, et qui étaient largement utilisées dans les maisons de l'époque islamique en Égypte et au-delà, puisque c'était exporté. Donc ça sort un peu de notre période, et je n'insiste pas. Comme on le voit à l'énoncé de cette liste impressionnante de carrières situées dans des roches difficiles d'accès et dont l'exploitation posait des problèmes logistiques considérables, c'est durant les trois premiers siècles de l'Empire romain que l'exploitation des pierres ornementales a été principalement réalisée. Il convient donc d'en rechercher les raisons. Il faut d'abord rappeler que les secteurs économiques de la construction et de la métallurgie sont les deux seules activités qui, dans les sociétés agricoles pré-industrielles, ont nécessité des investissements massifs en capitaux et en savoir-faire, aussi bien pour la recherche des gisements que pour leur exploitation, pour la transformation des produits, puis pour leur transport et leur mise en œuvre finale. À la fin de la République, la monumentalisation et la marmorisation de Rome, devenue capitale du monde, et la compétition sociale et politique des élites romaines et provinciales, dont les membres voulaient tous des palais, des villas somptueuses, des mausolées grandioses, ont entraîné une demande sans précédent de pierres à bâtir. Cette demande a principalement été remplie, pour des raisons logistiques évidentes, par des carrières ouvertes à proximité des chantiers de construction, comme Philippe Levaux l'a bien souligné dans « The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World », qu'il faut d'ailleurs lire dans la version française intitulée « Le développement économique dans les provinces romaines d'Occident », qui est paru dans les mélanges en l'honneur de Louis Morin. Plusieurs milliers de carrières antiques sont ainsi connues sur le territoire de l'Empire. Lorsque l'élévation du niveau de richesse et les exigences des commanditaires ont exigé des pierres de grande qualité, les carrières locales n'ont plus suffi à combler la demande en matière de construction luxueuse qui manifestait publiquement le besoin de distinction sociale. Les architectes se sont donc mis à rechercher des marbres et des pierres colorées telles que les granites, les serpentines, les porphyres, particulièrement adaptées aux parties ornementales des édifices telles que les colonnes, les chapiteaux, les architraves, les pavements et les sculptures. Cette distinction entre pierre locale et importée est valorisée par Pline et par Sénèque. Leur usage commence vers le milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, avec l'arrivée à Rome des statues saisies en Grèce sous forme de butin. En 146, le consul Lucius Mummius prend la ville de Corinthe et ramène un énorme butin sous forme d'œuvres d'art qui seront exposées à Rome et dans les colonies romaines en Italie, dont Pompéi. La même année, Quintus Caecilius Metellus, triomphateur de la Macédoine, fit construire le temple de Jupiter Stator en marbre pentélique importé de Grèce. Puis tous les impératores, les généraux de la fin de la République, utiliseront la construction d'édifices publics en marbre pour asseoir leur prestige et leur pouvoir politique. Les empereurs feront de même. Suétone écrit dans une formule célèbre qu'Auguste trouva une cité de briques et la laissa de marbre, en parlant de Rome. C'est dans la vie d'Auguste, en 28, paragraphe 3. Puis, à partir de Tibère, la marmorisation en elle-même ne suffit plus. Le prestige de l'empereur passe alors par sa capacité à extraire et à transporter à grands frais des pierres colorées et plus tard des colonnes gigantesques des carrières impériales du désert d'Égypte. Son emploi à Rome manifeste la volonté de frapper les imaginations par des bâtiments toujours plus grands et luxueux et par des tours de force technologiques. De même que la sculpture monumentale véhicule une idéologie, comme cela a bien été montré par Gilles Sauron à propos des rinceaux de l'époque augustéenne, l'emploi des marbres, granites et porphyres colorés était porteur de sens. Ils étaient immédiatement visibles et identifiables. Ils manifestaient, par leur exotisme, la puissance des commanditaires et donc celle du peuple romain, maître de la terre, dont l'empereur flattait ainsi l'orgueil. Le livre 36 de Pline, consacré entre autres aux marbres importés, montre la conscience qu'avaient les connaisseurs, mais aussi le large public, de l'origine et de la qualité de ces pierres importées à grands frais. On savait que certaines qualités de pierres ne pouvaient provenir que de lieux bien déterminés et lointains. Par exemple, le marbre cipolin, blanc venait de Vert, venait de Charistos à Neubé. Le marbre rouge était extrait à Mani, au sud du Péloponnèse. Le marbre jaune, marmor numidicum, trouvait son origine à Chemtou, en Tunisie. Le marmor porphyrites, de pourpre, et la litos pyropoïsilos, tacheté de rouge, désignait le granit d'Assouan. Le marmor claudianus, le granit gris extrait des montagnes au cœur du désert oriental, etc. Au-delà des bâtiments publics, l'emploi des marbres de prix et des pierres colorées passa dans les demeures privées. En 78 avant Jésus-Christ, Marcus Lepidus introduit le marbre jaune de Chemtou. Et en 74, Lucius Lucullus, le marbre dit africano, dans leurs demeures respectives. Pline, au livre 36, paragraphe 48, rapporte qu'en 58 avant Jésus-Christ, Marcus Corus, à l'occasion de son édilité, fit construire un théâtre temporaire en bois dont la scène était ornée de 120 colonnes construites et installées dans la scène provisoire, mais qu'il réutilisa ensuite dans sa demeure du Palatin. Les aristocrates suivaient ainsi le modèle des palais des dynastes hellénistiques et des constructions impériales, accroissant la demande de ces pierres luxueuses qui finiront par orner toute demeure cossue des villes du pourtour méditerranéen et toute villa un tant soit peu luxueuse, notamment sous forme de plaquages et ces fameux pavements que l'on appelle opus sectile. Au cours du 1er siècle de notre ère, la demande devint donc énorme et les carrières durent y répondre, pour la plupart selon le jeu de l'offre et la demande privée. En effet, mis à part quelques carrières appartenant à des cités, surtout en Orient, les carrières étaient pour l'essentiel possédées et exploitées par des personnes privées, celles qui possédaient les biens-fonds où elles étaient situées. Et on considérait que leur exploitation, au même titre que la production des tuiles et des briques, relevait de l'exploitation normale des propriétés foncières. Mais la situation dans le désert est différente. En effet, du fait de l'éloignement des zones habitées et du fait des extraordinaires difficultés de survie dans ces zones arides et très chaudes, l'initiative privée était incapable de lancer et d'organiser leur exploitation. C'est la conjonction de la demande impériale en construction grandiose, manifestant son pouvoir sans limite, et la grande difficulté d'extraire ces pierres qui conduisit à la mise en exploitation à grande échelle de certaines carrières du désert oriental. L'empereur Tibère d'abord, puis Néron et surtout Domitien, avant les Antonins, chargea l'armée d'organiser et de sécuriser ces carrières qui employaient une abondante main-d'œuvre formée de salariés et de membres de la familia impériale, c'est-à-dire des esclaves qui appartenaient à l'empereur. Les salariés étaient des tailleurs de pierre et des forgerons qualifiés. Recrutés, nous le verrons en propos du Mons Claudianus, assez souvent à Alexandrie ou à Assouan, et ils étaient bien payés. La main-d'œuvre non qualifiée était fournie par l'empereur sous forme d'esclaves et quelquefois de prisonniers de guerre. Nous avons vu que beaucoup de sites furent exploités à des degrés divers, mais deux l'ont été sur une échelle extraordinaire, le complexe du Mons Claudianus et celui du Mons Porphyrites. Ces carrières et leurs bâtiments d'exploitation ont été fouillés récemment par une équipe anglaise dirigée par David Peacock et Valérie Maxfield, mais la compréhension de leur fonctionnement vient de l'abondante littérature fournie par les ostracas, retrouvés par milliers sur ces sites et étudiés par Jean Bingen, Hélène Cuvigny, Adam Bülow-Jacobsen et Wilfried van Hengen. En résumé, suivant les gisements déjà prospectés et exploités depuis la période pharaonique, voire depuis la fin de la préhistoire, les Grecs, à partir du dernier quart du IVe siècle, ont exploité des mines d'or, de plomb et de cuivre et des pierres précieuses. Puis les Romains, à partir du dernier tiers du Ier siècle avant Jésus-Christ, ont surtout ouvert un grand nombre de carrières de pierres colorées, grès-ouaqueux, granites et porphyres, et délaissant en fait les mines, et nous verrons pourquoi. Et enfin, au cours de l'Antiquité tardive, les mines d'or ont été remises en exploitation. C'est ce thème de l'exploitation de l'or sur lequel je voudrais insister maintenant, en présentant les fouilles d'un district minier aurifère, exploité au cours de la période pharaonique et de l'époque ptolémaïque, avec une courte réoccupation à l'époque romaine tardive, puis au début de l'époque islamique, ou plus exactement vers le Moyen-Âge. De 1980, 2013 à 2014, l'équipe de recherche du désert oriental, dirigée alors par Hélène Cuvigny, a poursuivi des recherches sur les forts de l'armée romaine qui jalonnaient les routes reliant le Nil à la mer Rouge. Puis, en 2014 et 2015, notre équipe, désormais conduite par Bérangère Redon, qui est chercheur au CNRS et rattachée à la Maison de l'Orient, un centre de recherche implanté à Lyon, et par Thomas Fauché, lui aussi chercheur au CNRS dans le laboratoire IRAMAT, basé à Orléans. Notre équipe, donc, a étudié des gisements d'époque ptolémaïque dont l'histoire est intimement liée à l'exploitation du minerai d'or et à la chasse aux éléphants de guerre. L'or du désert oriental fut exploité dès les premiers temps de la royauté égyptienne, puis par la suite au Nouvel Empire. À l'époque ptolémaïque, le pouvoir lagide engagea une exploitation systématique et intensive des filons aurifères égyptiens pour asseoir sa puissance et mener une politique étrangère ambitieuse dont l'or, évidemment, était l'une des clés. Les installations antiques ont été progressivement repérées par des prospections conduites dans cette région depuis le XIXe siècle, par Jean-Baptiste Abelzoni, puis par Jordan Gardner Wilkinson au début du XIXe siècle, et plus récemment, après divers autres chercheurs, par Dietrich et Rosemary Klemm, et qui, à partir de 1989, ont prospecté de façon très intensive cette région, donnant lieu à un certain nombre de publications, dont la dernière est parue en 2013 et fait un point général. Mais la région a été aussi prospectée pour d'autres raisons par Henry Wright et Stephen Sidebottom dans les années 1990 et 2000, et ce sont sur ces travaux que nous nous appuyons. Ces prospecteurs ont en effet permis de découvrir plus de 250 sites miniers, incluant des mines, des installations liées à leur exploitation et des villages de mineurs. Mais aucune fouille de site n'a été réalisée jusqu'à présent, à l'exception des travaux de la mission de l'Oriental Institute de Chicago au Bir Umfawarir, une zone minière exploitée à plusieurs reprises, notamment au Nouvel Empire puis sur les Ptolémées, et surtout au début de l'époque byzantine. De notre côté, nous avons débuté des travaux par l'exploitation de la zone minière de Samout, située entre Edfou et la mer Rouge. Donc, vous voyez ici Edfou, c'est-à-dire l'ancienne Apollonopolis la Grande, et la mer Rouge est principalement le port de Bérénice. Le site de Samout se trouve à peu près au milieu entre le Nil et la mer Rouge. Cette zone comprend des vestiges du Nouvel Empire, de l'époque ptolémaïque, de la période romaine et du Moyen-Âge. Ces travaux que je vais vous présenter ont été publiés de manière préliminaire dans plusieurs articles, dont un intitulé « Les mines d'or ptolémaïques, résultat des prospections » dans le district minier de Samout, paru dans le bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire en 2013. Un autre article un peu plus récent de Bérangère Redon et de Thomas Fauché, intitulé « Gold Mining in Early Ptolemaic Egypt, New Discoveries in the Eastern Desert », est paru dans Egyptian Archaeology, numéro 46, au printemps 2015. Il donne donc les principaux résultats de la campagne 2014. C'est sur ces publications préliminaires que je me fonde donc pour présenter les résultats en attendant ceux des campagnes en cours. En effet, nous repartirons au mois de janvier 2016 pour continuer l'étude de ces gisements antiques en poursuivant notamment les fouilles du fort de Bir Samout. La région de Samout, dont le nom égyptien signifie la tour, comporte des vestiges nombreux et organisés autour de trois pôles. L'un au nord-est, dans le Wadi Samout el-Beda, l'autre au nord, c'est ce qu'on appelle Samout Nord, et un autre ensemble au sud, autour de ce qui s'appelle localement le Bir Samout. Les sites se trouvent dans un secteur où le socle des gneiss et des migmatites est recouvert par des roches métamorphiques et volcaniques faiblement métamorphisées, ce qui a favorisé la minéralisation et notamment la formation d'or dans des filons de quartz qui se sont déposés dans les failles. Ces quartz aurifères ont été, au cours des millions d'années d'érosion, en partie délités, et les nodules métalliques, dont ceux d'or, qui se retrouvent dans les sables et les sédiments déposés dans les wadis. Alors, vous voyez ici un exemple de quartz aurifère avec deux paillettes d'or. Évidemment, avec l'érosion, ces paillettes se détachent et se déposent au fond des vallées. Ce sont ces sédiments donc, dans les vallées qui ont d'abord été exploités à partir au moins de l'ancien empire, voire avant. Puis, sous les Ptolémées, les veines de quartz elles-mêmes, les veines de quartz aurifères, ont été creusées et le quartz a été broyé pour récupérer l'or. En fait, l'histoire de l'or est celle d'une fièvre récurrente liée soit à la découverte de nouveaux gisements, soit à celle de techniques d'extraction plus efficaces, soit à la volonté du pouvoir ou au contraire à son laxisme, soit enfin à la hausse des cours de l'or. Le plus souvent, il s'agit d'une combinaison de tous ces paramètres et il se trouve que, par malheur pour le patrimoine archéologique, nous nous trouvons dans une conjoncture qui provoque une nouvelle ruée vers l'or dans le désert égyptien. La hausse récente des cours mondiaux de l'or rend l'exploitation rentable pour des entreprises, malgré une faible teneur en or dans le minerai. En conséquence, les gisements de Samoud, comme ceux de Sokari, de Kumpassi, de Dunkash et tant d'autres, qui ont été préservés depuis des millénaires, sont en grand danger. Samoud est menacé de deux façons. D'une part, une entreprise minière a obtenu la concession de toute la zone avec licence plus ou moins tacite de détruire tout ce qu'elle veut. Ainsi, durant l'année 2013, l'entreprise a détruit au bulldozer toute la partie nord de l'un des complexes ptolémaïques de Samoud Nord pour effectuer des carottages. Vous voyez sur cette photo qui a été prise en 2013 le bastion nord d'un des bâtiments de Samoud Nord qui est intact. Et l'année suivante, le bulldozer avait détruit une partie de ce bastion. Donc ça, c'est une première menace. Une deuxième menace est liée aux chercheurs d'or. Alors, ici, vous voyez les destructions qui ont eu lieu par l'entreprise minière en 2013, qui ont surtout concerné toute la partie nord de ce bâtiment de Samoud Nord et également une zone un peu en contrebas où ils ont effectué des carottages. Donc l'autre menace est en fait liée à la prolifération des chercheurs d'or. Ici à nouveau, la zone telle qu'elle était intacte en 2013 et ici avec, vous voyez, les traces du bulldozer qui a détruit une partie des vestiges. Il se trouve en effet que, du fait des événements politiques en Égypte, tout ce secteur du désert oriental a sombré dans l'anarchie. Des bandes de chercheurs d'or labourent le désert pour trouver de l'or. Et c'est là que l'on voit la conjonction du progrès technique sous la forme de détecteurs de métaux bon marché produits par la Chine et de l'anarchie qui se manifeste par l'absence de surveillance policière ou militaire, laissant n'importe quel individu libre d'exploiter le désert à sa guise. Les chercheurs d'or viennent de la vallée du Nil. Leur technique est simple. Ils décapent le sol avec des bulldozers, puis ils étalent les déblais et utilisent des détecteurs de métaux pour récupérer les nodules métalliques. Lorsqu'ils trouvent un gisement archéologique, ils procèdent de la même manière, par une destruction systématique et totale des vestiges, souvent jusqu'en dessous des fondations, étalement des sédiments archéologiques et prospection aux détecteurs, pour trouver des objets, et notamment des pièces de monnaie antique. Le gisement de Bir Samoud, dont je parlerai plus en détail tout à l'heure, a été ainsi en partie détruit, de même que plusieurs sites aux alentours, dont ceux que nous avions fouillés ou prospectés, par exemple Didumoy ou Campassy. Nous sommes retournés sur le site de Campassy en janvier 2015 pour constater qu'une grande partie du fort avait été détruite au bulldozer, notamment le rempart et les citernes. Alors, vous voyez ici une vue de Campassy avec une tranchée ouverte au bulldozer à travers le fort. À Bir Samoud, qui était absolument intact jusqu'en 2012, les dégâts ont porté, par exemple, sur la porte. On voit ici une première attaque qui avait eu lieu avant 2013, et on voyait apparaître les parements de la porte d'entrée. Et en 2014, toute cette partie avait été détruite au bulldozer pour essayer donc de trouver des vestiges commercialisables. De la même façon, le bastion ouest du fort de Bir Samoud a été totalement détruit au bulldozer. Et vous voyez ici le rempart détruit, ce qui s'avère être les bains, je reparlerai tout à l'heure, et le dépotoir qui a été ainsi bouleversé avec des engins mécaniques. Il fallait donc, dans ces conditions, intervenir d'urgence. Et une première campagne a eu lieu en janvier 2013, qui a surtout consisté à prospecter systématiquement la zone afin de repérer les sites archéologiques et à lever le plan de Samoud Nord, ce qui a été très utile puisque, comme je vous l'ai montré, une partie du site a été détruite quelques mois après. Cette opération de prospection a donc été réalisée au bon moment, juste avant que l'irréparable ne soit commis. La seconde campagne, en janvier 2014, a débuté les fouilles des deux ensembles ptolémaïques de Samoud Nord et de Bir Samoud. Et étant donné l'urgence de la situation et le risque que tout le site soit détruit l'année suivante, nous avons donc, à ce moment-là, fait porter nos efforts sur le bâtiment 1 de Samoud Nord et sur les dépotoirs de Bir Samoud. La deuxième campagne a eu lieu en janvier 2015 et elle a consisté à terminer la fouille du bâtiment 1 de Samoud Nord, a fouillé le bâtiment 2 et a dégagé des structures circulaires qui avaient été à l'origine interprétées comme des laveries et qui se sont révélées être des moulins à écraser le minerai. Dans le fort de Bir Samoud, nous avons fouillé le rempart, l'aile ouest, les casernements comprenant des thermes, et nous avons commencé à dégager le puits. Et nous avons continué alors la fouille du dépotoir sud. Parallèlement, une équipe séparée a prospecté le site de Samoud El Beida, dont Alexandre Rabot a relevé le plan, et a travaillé sur l'habitat médiéval de Samoud Nord, dont le plan a été réalisé et quelques structures ont été fouillées par Julie Marchand. Il est temps maintenant d'examiner les résultats qui ont dépassé nos espérances malgré les circonstances, car on est désormais à même de brosser un tableau de l'occupation humaine de cette zone. Alors commençons quand même par la première occupation, qui est celle du Wadi Samoud El Beida, ici en partie nord, un village de mineurs du Haut-Empire, très vaste, a été décelé. Vous voyez ici une photo satellite du Wadi avec toutes les petites cabanes qui s'égrènent le long des deux côtés du Wadi. Les habitations se succèdent sur les deux bords du Wadi et sur les buttes au milieu du Wadi sur plus d'un kilomètre. Donc ça donne une idée quand même de l'ampleur de l'exploitation. Le site avait déjà été prospecté par Dietrich et Rosemarie Klemm, qui le décrivent dans leur ouvrage « Gold and Gold Mining in the Ancient Egypt and Nubia », paru donc en 2013. Ils ont alors dénombré plus de 200 cabanes associées à des meules. Voici un exemple un peu plus rapproché de ces cabanes, une vue au sol. Toutes ces cabanes sont à peu près de même type, c'est-à-dire rectangulaires avec des angles arrondis ou parfois rondes, et elles sont liées à des plateformes de travail où l'on trouve des meules dormantes en forme de table associées à des molettes pour broyer le minerai. Il semble que les Égyptiens de cette époque aient exploité surtout des placères, des alluvions chargées de paillettes d'or. Le peu de céramique recueillie renvoie au Nouvel Empire, de même que les techniques de broyage. Ensuite, le secteur a été abandonné pendant assez longtemps, avant d'être, probablement parce qu'on considérait que le gisement était épuisé, avant d'être réoccupé à l'époque ptolémaïque avec la construction de ce complexe que nous appelons Samoudnor. La construction des bâtiments de Samoudnor a été motivée par l'existence d'un filon de quartz exploité sur une longueur apparente de 360 mètres. Alors, vous voyez ici la photo satellite, ici la tranchée qui a été ouverte par les mineurs grecs de l'époque ptolémaïque et qui donc vide en quelque sorte la faille qui contenait le quartz aurifère, et de part et d'autre les bâtiments qui ont été construits, les bâtiments d'exploitation qui ont été construits. La partie supérieure du gisement, alors vous voyez ici une vue de la tranchée avec ici une échelle qui a été mise en place récemment par l'entreprise minière pour explorer le gisement à nouveau. Et vous voyez, en fait, les travaux antiques se limitent à une tranchée d'une profondeur d'environ 1,20 m, parfois un peu plus loin, un peu plus profond, et quelquefois avec quelques diverticules, car, bien entendu, il s'agissait de suivre la faille et les dépôts de quartz aurifère. Cette tranchée donc porte des traces caractéristiques d'attaques au pic qui datent de l'Antiquité, alors que les puits, par exemple celui-ci, les puits verticaux qui ont été explorés en 2014 par une équipe spécialisée dirigée par Florian Térégéol, ont été forés au début du XXe siècle par une entreprise anglaise qui a tenté de remettre en exploitation la mine, mais qui a dû renoncer après cette exploration en profondeur, probablement à cause de la faible teneur en or du minerai. Toute la chaîne de préparation, depuis l'extraction jusqu'à la fonte, est présente sur le site. Elle débute à la sortie de la mine par un premier travail de préparation des minerais qui consiste en un tri et en un concassage du minerai matérialisé par des emplacements de travail individuels avec des accumulations de blocs de quartz blanc qui en fait correspondent aux stériles, vous voyez, qui sont ici, associés à des blocs d'enclume où on écrasait donc les blocs extraits de la mine. L'étape suivante, qui vise à amener le minerai à une taille suffisamment fine pour être moulu, est représenté par des tables d'enclume auxquelles sont associés des percuteurs. Enfin, la production de la farine, c'est-à-dire la poudre de minerai, était réalisée dans de grands moulins circulaires. À la suite de ces opérations, les mineurs avaient à disposition un ensemble enrichi, bon à être fondu. La présence d'un four sur le site laisse penser que l'étape métallurgique, c'est-à-dire la fonte, prenait également place sur place. Avant d'aborder les vestiges archéologiques, il convient de citer les principaux passages du célèbre texte d'Agatharchide concernant l'exploitation des mines d'or dans le désert oriental. Agatharchide écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ, mais nous pouvons appliquer, disons, ces enseignements à la phase légèrement antérieure. Le texte ne nous a pas été conservé complètement. Il est cité à la fois par Diodore au livre 3, paragraphe 12, par Strabon au livre 16, paragraphe 4, et puis 5 et 20, et par Photius dans la bibliothèque au chapitre 250. Que nous dit Agathe Harkis ? Il nous dit, et je cite, « Dans les montagnes où l'on trouve l'or, on incendie par des feux de bois les endroits abrupts dont la roche est très dure. On les attendrit par le feu, puis on se met au travail. Là où la pierre est tendre, on la fend au ciseau. En tête des travailleurs, il y a un ouvrier qui sélectionne les pierres. Quand il a tracé le chemin aux mineurs, tout l'ouvrage est partagé de la façon suivante aux misérables qui y sont astreints. Ceux qui sont vigoureux et jeunes brisent à coups de masse de fer le sol qui luit comme du marbre. Ils ne mettent aucune technique dans leurs coups, seulement de la force. Ils ouvrent dans la montagne de nombreuses galeries qui ne sont pas droites. Le gisement aurifère allant tantôt vers le haut, tantôt vers le bas, tantôt vers la gauche, tantôt en oblique et tantôt de travers, à peu près comme les racines des arbres. Ces gens, donc, une lanterne attachée au front, et nous verrons que nous avons trouvé beaucoup, relativement, de lampes, creusent la pierre en suivant une espèce de veine blanche. Changeant continuellement leur coup de position, ils jettent sur le sol les fragments de pierre, non à la mesure de leur commodité ou de leur vigueur, mais sous les yeux d'un contremaître qui ne les gronde jamais sans les frapper. Les jeunes enfants se glissent dans les galeries que les mineurs ont creusées. Ils ramassent péniblement les cailloux qu'on jette et les transportent hors des galeries. Les gens âgés, et pour la plupart les malades, reçoivent d'eux les pierres et les emportent pour les remettre à ceux que l'on appelle les surveillants. Ceux, alors, qui ont moins de 30 ans et dont les coups sont vigoureux, prennent des mortiers de pierre, du type ce qu'on voit là, et avec des pilons de fer, ils broient énergiquement la pierre et en font des morceaux, dont le plus gros est à peu près de la taille d'une lentille. Ils les distribuent sur le champ à d'autres ouvriers. Et voici quel est le travail des femmes amenées dans les bagnes avec leurs maris ou avec leurs parents. Il y a une série de meules qui tournent et sous lesquelles elles jettent la pierre pilée. Trois femmes se mettent de part et d'autre du même bras de meule dans un accoutrement affreux qui ne cache de leur corps que le sexe. Elles meulent jusqu'à ce que les fragments calibrés qu'on leur a donnés soient réduits à l'état de poudre. Tous ces gens qui sont tombés dans l'infortune qu'on vient de décrire, aimeraient mieux mourir que de vivre. La poudre obtenue par le travail des femmes leur est reprise par ce qu'on nomme les laveurs. Ils répandent la pierre meulée sur une large planche dont la face est polie. Elle est posée non de niveau, mais légèrement inclinée. Ils y versent ensuite de l'eau et malaxent avec leurs mains légèrement d'abord, puis plus fort. Ainsi, la terre se dissout et s'écoule avec l'eau sur la pente de la planche. Ce qui est solide et utilisable reste sur le bois. Alors, vous voyez ici un exemple d'une mine d'or en Tanzanie, publiée par Klemm, qui est exactement ce que décrit Agathe Harkis, c'est-à-dire des ensembles de planches de bois plates sur lesquelles on fait couler de l'eau avec le sédiment de façon à éliminer les sables stériles qui s'en vont avec l'eau et se déposent alors les particules lourdes et notamment l'or. Après des lavages répétés à l'eau, continue Agathe Harkis, celui qu'on appelle le laveur prend délicatement la pierre avec des éponges douces et serrées, il la frotte un certain temps, enlève ce qu'il y a encore de léger et de mou dans les anfractuosités et le rejette, tandis que et il laisse trier sur la planche ce qui est lourd et brillant et ce qui est donc un métal difficile à déplacer à cause de sa pesanteur naturelle. Ce laveur donc débarrasse ainsi les paillettes d'or de leurs impuretés et les remet au fondeur. Ceux-ci prennent ce qu'ils recueillent en quantité d'une mesure d'un poids déterminé et le mettent dans un vase en terre. Ils y mettent la proportion de la quantité, un morceau de plomb et des grains de sel, un peu d'étain et du son d'orge. Ils couvrent le vase d'un couvercle hermétique, ils l'enduisent de toutes parts et le font cuire dans un four pendant 5 jours et 5 nuits sans arrêt. Le jour qui suit, Ils soumettent le mélange passé au feu à un refroidissement léger et ils versent dans un autre récipient. Ils ne retrouvent rien des ingrédients qu'ils avaient mis avec l'or, mais ils retrouvent la masse d'or telle qu'elle l'était, avec une légère perte due aux scories. Donc c'est un texte tout à fait fondamental parce qu'il nous décrit parfaitement le processus que nous allons pouvoir illustrer parfaitement par cette fouille de Samoudnor. Quatre ensembles de bâtiments, en effet, sont liés aux divers processus d'extraction et de raffinement de l'or. Alors, vous voyez ici le plan général avec le filon aurifère. Ici, un grand bâtiment que nous avons appelé le bâtiment 1, qui correspond principalement à l'administration et au lieu de stockage et au dortoir. Ici, un autre bâtiment avec des dortoirs et des plateformes de concassage. Ici, la zone des moulins. Et ici, tout le long du filon, des petites cabanes qui sont soit des cabanes de mineurs, soit des cabanes de forgerons. L'édifice 1, approximativement rectangulaire, qui mesure 58 mètres par 36, comprend quatre corps de bâtiment construits autour d'une cour centrale. On y accédait par quatre portes situées sur les flancs ouest, nord et est. Vous voyez ici la porte principale, il y en avait une autre ici qui a été bouchée dans un deuxième temps. Il y en avait une ici et une autre ici. Donc, on ne peut pas dire que ce soit véritablement un fort, puisqu'il y a beaucoup d'entrées et que l'ensemble n'est pas véritablement conçu pour être défendu. La porte principale donc, est localisée au sud-ouest. On y parvenait par un chemin muletier qui arrive ici et qui y arrivait à la suite d'une série de lacets. Vous voyez, qui commence là et on arrive ici. Le bâtiment 1 est construit totalement en granit, extrait d'un affleurement situé sur le flanc oriental qui a été exploité comme carrière. Les sols sont partout recouverts d'une couche de sédiments fins argileux qui provient principalement de la fonte des liants des murs. L'entrée, large de 2,10 m, n'est défendue par aucune tour et il ne semble pas qu'elle ait comporté de véritables portes. Le couloir débouché sur la cour centrale que l'on voit ici et où se trouve une dépression carrée creusée dans le rocher que on peut voir ici, dont on attendrait qu'il s'agisse d'une citerne, mais que sa construction ne permet pas d'attribuer à la fonction de réservoir d'eau, car l'ensemble dépend du. Ceci dit, il est possible que les travaux n'aient pas été terminés et que cet ensemble ait été conçu comme étant une citerne, mais le site a pu être abandonné avant que les enduits ne soient faits. L'aile bordant le côté sud de la cour, c'est-à-dire ici, et nous allons voir plus en détail ici, donc cette aile ici, est bordée a servi principalement de réserve et on y a trouvé notamment des silos à grains et on y a également trouvé une porte en bois cloutée à peinture de fer qui montre que cette partie était fermée et n'était pas accessible sauf autorisation spéciale. La pièce 126 qui est située ici comporte un foyer en son centre. On y a découvert un pied de statue en argile crue qui comporte quelques traces de dorure. Et donc, cela laisse penser que cette pièce était un sanctuaire. C'est d'ailleurs le seul endroit de cet ensemble où on a pu émettre l'hypothèse qu'il s'agissait d'un sanctuaire. Toutefois, mis à part le fait que la pièce est enduite intérieurement et qu'il y a un foyer au centre, Aucune autre découverte que le pied ne vient conforter cette interprétation. On n'a trouvé notamment ni statuette ni inscription. Mais cela n'est pas complètement étonnant dans la mesure où, nous allons le voir, le site a été occupé très peu de temps et il est probable que les aménagements et les mobiliers cultuels aient été enlevés lorsque le site a été abandonné. L'aile ouest du fort comprend les pièces ici, 105 à 116, et l'aile ouest est dotée ici d'aménagements particuliers. La pièce 116 était une cuisine où l'on a trouvé trois fours pour faire des galettes et un grand four à pain faisant saillie sur le mur d'enceinte, ce que vous voyez là. Dans la salle voisine, qui a malheureusement été détruite par le bulldozer, ici, on avait pu repérer, avant les dégâts, trois banquettes adossées au mur ouest, nord et est, qui montrent qu'il s'agissait d'une salle à manger. Tout cet ensemble pourrait correspondre à une partie des appartements du commandant du fort, l'ensemble 115-117 étant destiné aux réceptions et la pièce 116 donc étant une cuisine. L'aile nord, c'est-à-dire ici, et qui comprend les pièces 106 à 111, est fondée sur le point le plus haut de la colline et fait saillie par rapport au mur extérieur du complexe. C'est un bastion qui devait comporter un étage. En effet, c'est le seul endroit, où, et on le voit bien ici dans cette photo après la destruction par le bulldozer, c'est le seul endroit où les pièces sont totalement remplies de débris. Et on y trouve effectivement des pierres, de l'argile, mais aussi des végétaux qui doivent provenir du plafond. Comme les murs sont préservés sur environ 2,50 m de hauteur, on doit en conclure que le remplissage provient d'un étage qui est aujourd'hui disparu. Les murs ont conservé leur sol et leurs enduits d'argile. Vous voyez ici les sols et l'enduit d'argile qui plaque le mur. Et ils étaient couverts d'amphores abandonnées, dont une contenait des figues sèches destinées à un personnage dont l'inscription marquée sur l'amphore nous dit qu'il s'agit d'un trapezophoros, c'est-à-dire d'un banquier ou d'un comptable. Ce pourrait être un personnage en charge de la comptabilité de l'or. Dans ce secteur ont été également trouvées une coupe en albâtre, un plat en faïence et des amphores à vin de Cnide, de Chio et de Phénicie. L'ensemble de ces caractéristiques en fait un bâtiment à part, mieux protégé et habité par des officiels. On doit donc considérer que c'est dans cet édifice que résidait le personnage en charge de l'exploitation de la mine ainsi qu'une partie de ses collaborateurs. L'aile orientale du complexe 1 est la plus développée. L'aile orientale, c'est celle-là. Elle est séparée en deux par l'entrée 134, que vous voyez là, comme je vous l'ai dit, a été bouché ultérieurement. Sans doute, cette entrée était de même importance que l'entrée principale ouest. Elle débouche sur une zone extérieure, qu'on voit ici, qui est en pente douce, où se trouvait la carrière qui a servi à extraire les blocs permettant la construction, et un four sur lequel je reviendrai, également un dépotoir, qui était situé devant la porte. La porte donc a été obstruée dans une seconde phase, peut-être au cours d'une deuxième campagne de travaux, mais la présence du dépotoir indique qu'elle a fonctionné un certain temps au cours de la phase initiale. Au nord du couloir d'entrée 134 se trouve cette longue pièce 138, longue de 11 mètres et large de 5,25 mètres, et cette pièce est dotée, comme vous le voyez sur le plan, de banquettes larges de 2 mètres à 2,20 mètres, supportées par des murets. Au sud de l'entrée 134, deux autres longues pièces, vous voyez ici, s'organisent de façon symétrique de part et d'autre d'une pierre centrale numéro 130 ici. Les salles sont équipées, là aussi, de banquettes latérales séparées par un couloir central. Donc on entrait par ici. Il y avait cette pièce où certainement étaient logés des surveillants et on pouvait pénétrer donc dans ces deux pièces par les couloirs centraux. Ces trois salles dotées de banquettes ont des entrées gardées par des postes de garde. C'est donc ce que je viens de vous montrer là. Ici, la 130, et ici, comme vous le voyez, on a un poste de garde qui surveille l'entrée de cette deuxième pièce. Leur présence, le poste de garde et des banquettes, indique qu'il s'agit de dortoirs surveillés par des gardiens. La largeur des banquettes, qui varie de 1,70 m à 2,20 m, convient bien à cette utilisation. La présence d'un poste de garde signifie que ces dortoirs accueillaient une population sous surveillance, sans doute la main-d'œuvre travaillant à la mine sous la contrainte. Cette observation rejoint donc le texte d'Agathe Arkhide que je viens de citer, qui décrit les conditions inhumaines de travail dans les mines. Agathe Arkhide, dans un passage que je n'ai pas cité, écrit, c'est le paragraphe 26 dans la citation de Photius, que les travaux étaient faits par des individus condamnés pour quelques crimes, des prisonniers de guerre, et avec eux ceux qui avaient été victimes d'accusations injustes et qui avaient été livrés à la prison par animosité. Au nord de cet ensemble, trois pièces, alors voici ici un autre de ces dortoirs qui sont donc très caractéristiques, avec le couloir central au milieu et les banquettes sur les côtés, et au nord de cet ensemble, accolé au dortoir 138, on trouve trois pièces qui ont dû être des logements pour des soldats ou des surveillants. L'une d'elles a livré une amphore de CNID qui avait été réutilisée pour conserver ou plutôt pour expédier des fromages, et l'inscription nous dit qu'il s'agit de fromages longs et de fromages ronds. La pièce a malheureusement été détruite par le bulldozer et nous avons trouvé cet ensemble dans un coin qui avait été épargné. Et la pièce nord, par contre, ici, la 137, avait été épargnée par le bulldozer et nous avons pu la fouiller et nous rendre compte que dans une phase finale d'utilisation, elle avait été utilisée pour entreposer de grandes quantités de charbon de bois. Le charbon de bois était nécessaire pour alimenter la forge située près de la mine, qui servait à forger et à pointer les outils pour creuser le filon rocheux, mais le charbon de bois pouvait servir aussi dans le four situé sur le plateau à l'extérieur du fort, le four que vous voyez ici. Au total, donc, le bâtiment 1 n'est pas un fort, mais plutôt un bâtiment de contrôle et d'exploitation destiné à accueillir le commandement, certainement des soldats et une partie des prisonniers travaillant dans les mines et les installations de broyage voisines. Sa position dominante, que vous voyez ici sur cette photo, visait sans doute à permettre le contrôle des activités qui se déroulaient à l'extérieur du bâtiment plutôt que de se préparer à une attaque potentielle venue de l'extérieur. Les soldats logés dans le bâtiment devaient veiller sur la main-d'œuvre, main-d'œuvre contrainte, donc des esclaves et des prisonniers, qui étaient logés là. Mais Agathe Arkhide montre bien à quel point tout espoir de fuite dans le désert était vain. Seule la mort pouvait délivrer les mineurs de leurs conditions de travail. Dans le texte rapporté par Diodore, au livre 3, paragraphe 13,3, il écrit « Ces malheureux pensent devoir redouter toujours plus l'avenir que le présent à cause des punitions excessives et jugeant la mort plus désirable que la vie, ils l'appellent de leur vœu. » Il est 11h, nous allons faire une pause de 5 minutes et puis nous continuerons à explorer ce gisement et à suivre la chaîne opératoire de production de l'or jusqu'à la fin.